1. En Christ. Imaginez que lorsque vous êtes entré dans cet endroit ce matin, l'équipe d'accueil ait vérifié vos papiers. Imaginez que, avant d'entrer, vous deviez montrer votre passeport ou une autre pièce d'identité juste pour pouvoir entrer. Ce serait fou, n'est-ce pas? Et maintenant, imaginez que certaines personnes puissent entrer avec certains passeports, mais que d'autres ne puissent pas le faire avec un passeport différent. J'espère que tout le monde serait indigné. J'espère que tout le monde protesterait. Parce qu'ici, ce n'est pas un aéroport, c'est une église. Comme nous le verrons ce matin, peu importe le passeport que vous avez, ce qui compte, c'est ce que Jésus a fait. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament, surtout le livre des Actes et celui des Galates, vous voyez qu'il a fallu du temps aux chrétiens juifs pour accepter les non-juifs dans l'Église. Ils ne vérifiaient pas les passeports. Ils vérifiaient en réalité quelque chose de beaucoup plus personnel et intime. Nous avons étudié le livre des Éphésiens. Il y a quelques semaines, nous avons examiné le début du chapitre 2, dans lequel Paul rappelait aux croyants leur situation passée avant de connaître le Christ. C'était sombre et sans espoir, avant que Dieu n'intervienne dans son grand amour et sa miséricorde, et ne les sauve par sa grâce. Ainsi, dans les versets 1 à 10, Paul revient sur le passé afin de décrire comment Dieu a radicalement changé leur réalité verticale, c'est-à-dire leur relation avec Dieu. Ce matin, nous allons regarder la deuxième partie du chapitre 2, dans laquelle Paul décrit comment Dieu a radicalement changé leur réalité horizontale, c'est-à-dire leur relation les uns avec les autres. Vous pouvez regarder autour de vous et voir que nous sommes une Église composée de nombreux pays et cultures. Mais comment devons-nous considérer cela? Devons-nous nous concentrer sur ces différences? Ou bien devons-nous faire comme si ces différences n'existaient pas? C'est ce que je voudrais que nous examinions ce matin. Donc si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Éphésiens chapitre 2. 11. Souvenez-vous donc qu'autrefois, vous les non-juifs dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, lesquels le sont dans la chair par la main de l'homme. Paul commence par dire « souvenez-vous » et « autrefois ». En d'autres termes, il parle à nouveau de leur passé, comme il l'a fait au début du chapitre 2. Avant de parler de leur réalité présente, il parle de la manière dont les choses étaient autrefois. Paul appelle l'Église les non-juifs dans la chair. L'Église d'Éphèse était principalement composée de non-juifs, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient pas d'origine juive. Paul les appelle les incirconcis, et disons-le, ce n'était pas un compliment à l'époque. C'était une façon pour Israël de mépriser les autres cultures. Maintenant, mesdames, je m'excuse. Je sais que c'est la journée de la femme, mais je dois expliquer la circoncision pour que nous puissions bien comprendre le sens du texte. Je vous l'avais dit, c'est plus intime que les passeports. Dans Genèse 12, Dieu a fait une alliance avec Abraham et lui a promis trois choses. Premièrement, un pays, ce que nous appelons la terre promise. Deuxièmement, que Dieu ferait de lui une grande nation. Il s'agit bien entendu de la nation d'Israël. Et troisièmement, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Ces promesses nous aident à comprendre le reste de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, alors que Dieu accomplissait ses promesses. Et Dieu a dit à Abraham que le signe de cette alliance serait physique. Ce serait la circoncision des nouveau-nés mâles, qui se pratiquait généralement le huitième jour. C'était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc si vous étiez juif et de sexe masculin, vous étiez circoncis. C'est ainsi que l'on pouvait savoir qui faisait partie de l'alliance ou non. Un garçon circoncis était juif. Un garçon incirconcis n'était pas juif, donc un païen. C'était donc très clair qui était dedans et qui était dehors. 12. Souvenez-vous qu'à cette époque, vous étiez séparés du Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Une fois de plus, Paul parle au passé. Il dit aux non-juifs de l'Église que non seulement ils n'étaient pas circoncis, mais qu'ils étaient exclus de la nation d'Israël et donc étrangers aux promesses de Dieu. En d'autres termes, ils ne faisaient apparemment pas partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Par conséquent, ils étaient séparés du Christ. Paul dit qu'ils n'avaient aucune espérance, parce qu'ils étaient sans Dieu dans le monde. Donc, verticalement, ils étaient sans espoir, car ils étaient sans Dieu. Mais horizontalement, ils étaient également sans espoir, parce qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Cependant, au verset 13, nous avons un autre « mais ». C'est « mais » avec un seul « t ». Au verset 4 d'Éphésiens 2, Paul a décrit leur passé, puis a dit « mais Dieu ». Et ensuite il parle du grand amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce. Au verset 13, nous avons un autre « mais ». Ce n'est pas « mais Dieu ». C'est plutôt « mais maintenant ». 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. » Les païens étaient autrefois à l'extérieur. Ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils étaient étrangers aux promesses de Dieu. Mais maintenant en Jésus-Christ, ceux qui étaient autrefois loin, ceux qui étaient à l'extérieur, ils ont été rapprochés. Ils sont maintenant à l'intérieur. Comment ? Par le sang du Christ. La raison pour laquelle nous ne vous demandons pas votre passeport à l'entrée, la raison pour laquelle nous ne demandons pas de pièce d'identité à la porte, c'est parce que notre droit d'entrée n'est pas basé sur votre pays, votre langue, ou le fait que vous ayez été circoncis ou non. Votre droit d'entrée dans ce sanctuaire avec action de grâce et louange est fondé sur le sang de Jésus-Christ. On pourrait dire que votre droit d'entrée est basé sur un test sanguin, mais il ne s'agit pas de votre sang. C'est par le sang de l'agneau qui a ôté les péchés du monde. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a ouvert un chemin pour que nous soyons rachetés. À cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais Dieu a créé un moyen. La parole, Jésus, est devenu chair et a habité parmi nous. Jésus, pleinement Dieu et pourtant pleinement homme, est venu sur la terre. Il est allé à la croix et est mort pour nos péchés. Le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais Jésus est allé volontairement à la croix et est mort pour nos péchés. Il est mort, a été enseveli, et est ressuscité des morts après 3 jours. Et il a dit que quiconque croit en lui peut être sauvé du péché par la foi. Sur la croix, il a pris notre place. En croyant en sa mort et sa résurrection, nous pouvons entrer dans ses parvis. Par la foi en Jésus, nous ne sommes plus à l'extérieur en train de regarder vers l'intérieur. Nous qui étions loin avons été approchés de Dieu. Non pas par quoi que ce soit que nous ayons fait, mais par le sang de Jésus-Christ. Paul continue. 14. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. 15. En abolissant par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus a fait la paix entre nous et Dieu, en satisfaisant la colère de Dieu sur la croix. Il a fait la paix entre les anciennes divisions des Juifs et des païens. Il nous a rendus un en lui. Il a abattu le mur d'inimitié. À l'époque, dans les parvis du temple, il y avait un mur dans la cour extérieure. Et sur ce mur était inscrite une mise en garde pour les païens. S'ils entraient dans les parvis intérieurs, ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur mort. Nous voyons que ce n'était pas simplement une différence entre deux cultures, mais qu'il existait de l'hostilité entre ces deux cultures. C'était culturel, mais aussi spirituel. Mais Paul dit que Jésus a fait tomber le mur qui séparait les Juifs et les païens. Comment Jésus a-t-il fait cela? Le verset 15 dit que Jésus a aboli la loi des commandements exprimée en ordonnance. Maintenant, vous pourriez dire, « Attendez une minute. Je croyais que Jésus avait dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Mais, dans la loi mosaïque, il y avait des aspects cérémoniels de la loi, ou des ordonnances, comme il est dit au verset 15, qui ne s'appliquaient plus après la venue de Jésus. Un auteur dit, « Le Christ a accompli la loi morale, respectant toutes ses exigences. » Mais il a aboli la loi cérémonielle juive. Ainsi, les exigences de la loi cérémonielle, les ablutions, les restrictions du sabbat, etc., qui constituaient un tel obstacle, ont disparu. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, il a fallu un certain temps aux chrétiens juifs pour comprendre cette réalité. Nous voyons dans le Nouveau Testament que cette transition ne s'est pas faite immédiatement. Dans le livre des Actes, il y a eu de grandes réunions à ce sujet. Dans le livre des Galates, certaines personnes forçaient les chrétiens gentils à se faire circoncire avant que Paul n'intervienne et ne dise « Eh, ce n'est pas juste, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas Jésus plus la circoncision, ce n'est pas Jésus plus quoi que ce soit, c'est seulement Jésus qui réconcilie tous les hommes avec Dieu. » Nous comprenons que, bien en arrière, dans Genèse 12, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham et a promis à Abraham un pays, une nation, et que toutes les nations seraient bénies à travers lui, Dieu pensait déjà aux païens, Dieu pensait à la Chine, Dieu pensait au Brésil, Dieu pensait à la Pologne. Jésus est venu et la bonne nouvelle s'est répandue. Les murs sont tombés. Peu importe dans quel pays vous êtes né, peu importe si vous avez été circoncis ou non, nous ne sommes plus à l'extérieur en train de regarder à l'intérieur. Mais grâce à Jésus, nous sommes à l'intérieur, tendant la main vers l'extérieur. Le peuple de Dieu est maintenant constitué de ceux qui croient en Jésus-Christ pour le salut et proclament son évangile. Le peuple de Dieu, c'est l'Église, un seul corps, un seul Seigneur. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Plus de murs. Je pense que l'Église de l'Évangile reflète bien cela. Nous pouvons regarder autour de nous et voir des gens de nombreuses tribus, langues et nations. Mais, permettez-moi de vous mettre au défi à partir d'Éphésiens 2. Il est possible de faire partie de cette Église où il y a des gens de nombreuses nations différentes, et de s'en tenir malgré tout à sa propre culture. D'être uniquement ami avec d'autres personnes de son pays. Je pense qu'une partie de cela est naturelle. Il est naturel de passer plus de temps avec des gens qui nous ressemblent déjà. Mais si vous êtes avec nous depuis des années, et que vous n'êtes proche que des personnes de votre culture, je vous encourage à réfléchir à cela, et à prier à ce sujet. Nous venons de lire que Jésus a fait tomber les murs dans les églises. Mais avez-vous construit un mur autour de vous-même? L'objectif n'est pas simplement d'essayer de découvrir une autre culture, ou de goûter de nouveaux plats, même si cela aussi, c'est agréable. Le but, c'est que nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous sommes une famille, comme Paul s'apprête à le dire dans les versets suivants. 17. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membre de la famille de Dieu. Encore une fois, avant de connaître Jésus, nous étions à l'extérieur, nous étions loin de Dieu. Mais par Jésus, Dieu nous a rapprochés de lui et rapprochés les uns des autres. Paul dit aussi qu'à travers Jésus, nous avons un accès direct à Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par un intermédiaire. Je me souviens que lorsque nous avons déménagé en Pologne, nous cherchions un appartement à louer. C'était avant Facebook Marketplace et ce genre de choses. La seule façon de trouver quelque chose était de passer par un agent immobilier. Nous pouvions regarder en ligne et trouver quelque chose qui nous plaisait, mais l'agent était le seul à pouvoir contacter directement le propriétaire. Donc, nous avons trouvé un appartement qui nous plaisait. Nous avons contacté l'agent, visité l'appartement et signé un contrat. Lorsque le moment est venu de payer, la facture de l'agent était vraiment élevée. J'ai été choqué. Je me suis dit, j'aurais pu contacter directement le propriétaire et économiser tellement d'argent. Elle était gentille, elle était serviable, mais elle n'a pas vraiment fait grand-chose. Pour accéder à Dieu, vous n'avez pas besoin de passer par un agent. Vous n'avez pas besoin de passer par moi, ni par qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le verset 18 dit que vous avez un accès direct à Dieu le Père, à travers Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, que Dieu nous donne au salut. Et à cause de cela, vous n'êtes plus un étranger, ni un immigré. Vous n'êtes plus à l'extérieur des promesses de Dieu. Au contraire, vous êtes concitoyens dans le royaume de Dieu. Hope disait il y a quelques semaines, lors de l'accueil, que lorsque vous regardez autour de cette salle, il peut y avoir des personnes que vous ne connaissez pas. Mais ce ne sont pas des étrangers. Un étranger est quelqu'un de l'extérieur. Mais ici, il n'y a pas d'étranger en Christ. Dans cette salle, il y a des passeports de nombreux pays différents. Mais Paul nous rappelle où se trouve notre véritable citoyenneté. Nous avons une citoyenneté dans les cieux. Nous avons une espérance future dans les cieux. Même si nos passeports indiquent l'Espagne, l'Éthiopie ou le Japon, ce ne sont que des lieux temporaires pour nous. Notre citoyenneté est dans les cieux, là où notre Sauveur nous attend. Cela ne veut pas dire que nos passeports terrestres n'ont pas d'importance. Ils comptent. Dans l'Apocalypse, nous voyons des croyants de toutes tribus, langues et nations. Nous n'avons pas besoin de prétendre que nous sommes tous pareils. Nous n'avons pas besoin de prétendre que nous aimons tous la même nourriture. Il est amusant d'encourager nos pays lors de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être tous les mêmes, ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas d'uniformité. L'uniformité signifie rendre tout identique. Ce n'est pas ce que Paul veut dire ici. Il ne s'agit pas d'uniformité, il s'agit d'unité. Il ne s'agit pas d'abolir nos cultures, mais de se souvenir que le Christ est au-dessus de nos cultures. Je pense que c'est là notre défi en tant qu'Église de l'Évangile. Nous avons ici de nombreuses cultures représentées, ce qui signifie que chacun a des manières différentes de faire les choses et des expériences différentes. Et cela est positif, c'est important. Mais en tant qu'Église, nous devons garder le Christ en premier et la culture en second. C'est facile à dire, mais cela peut être difficile lorsqu'il y a des conflits géopolitiques dans le monde. Je me souviens d'il y a 4 ans, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté. Il y avait alors une certaine tension parce que nous avions dans l'Église des personnes provenant de différents pays touchés par la guerre. J'ai eu l'idée d'inviter toutes les personnes affectées par la guerre chez moi pour un barbecue. Cela signifiait inviter des gens venant de différents côtés du conflit. Il n'y a rien qu'un bon repas ne puisse résoudre, n'est-ce pas? Mais avant même de pouvoir partager l'idée avec tout le monde, j'ai eu des retours indiquant que ce ne serait pas une bonne idée de mélanger tout le monde, que le conflit était encore trop récent. Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec ce genre de situation à l'époque. Mais, en y repensant, je ne pense pas que c'était la bonne décision. Peut-être que c'était encore trop récent, mais ce barbecue aurait dû avoir lieu à un moment donné. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord citoyens des cieux. Christ au-dessus de la culture. À cause de la croix, nous sommes plus unis que divisés. Peu importe ce qui se passe dans ce monde. Paul dit que nous ne sommes pas seulement concitoyens, mais aussi membres de la maison de Dieu. En d'autres termes, nous sommes une famille. Nous sommes fils et filles du Très-Haut Roi. Et si nous sommes fils et filles, alors nous sommes aussi frères et sœurs. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce qui se passe dans le monde. Paul dit que nous sommes une famille, que nous sommes concitoyens, et il va nous donner une métaphore de plus. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. La troisième métaphore que Paul nous donne est celle du temple. Si vous avez participé à l'étude biblique du mercredi soir, il y a quelques semaines, nous avons examiné le moment où Salomon a construit le premier temple. Le temple était le centre spirituel d'Israël. C'est là que les sacrifices étaient offerts. C'était un lieu de prière et d'adoration de Dieu. En fait, c'était la demeure de Dieu, et les gens venaient au temple pour y rencontrer Dieu. Mais de nombreuses années plus tard, Babylone est venue et a détruit ce temple, et le peuple d'Israël a été envoyé en exil. Mais après un certain temps, le reste d'Israël est revenu, ils ont reconstruit le temple, et il a fonctionné durant une longue période. Il existait toujours à l'époque où Jésus était vivant, et il y a exercé son ministère dans ce temple. Mais en l'an 70 après Jésus-Christ, l'Empire romain a détruit le temple. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de visiter Israël. J'ai eu l'occasion de voir de nombreux sites que nous trouvons dans la Bible. La mer de Galilée, Nazareth, Bethléem et d'autres. Et un jour, nous avons visité les vestiges du temple juif, ou du moins ce qui est présenté comme tel. Cependant, il reste encore aujourd'hui une partie du temple, ou du moins on prétend qu'elle provient toujours du temple. On l'appelle le mur occidental, ou certains l'appellent le mur des lamentations, et des gens viennent du monde entier pour le voir. Voici une photo de mon père et moi devant le mur. Il y avait beaucoup de monde, le jour où nous l'avons visité. Certaines personnes étaient là en train de pleurer, tandis que d'autres étaient là remplies de joie et chantaient. Certaines personnes étaient là dans l'espoir d'obtenir une réponse de Dieu à leurs prières. D'autres étaient là dans l'espoir de vivre une expérience surnaturelle. Bien sûr, j'étais curieux. Alors je me suis approché du mur. J'ai tendu la main et j'ai touché le mur. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai ressenti? Pensez-vous que j'ai ressenti quelque chose de magique ou de mystique? Pensez-vous que j'ai ressenti la présence de Dieu à cet endroit? Savez-vous ce que j'ai ressenti quand j'ai touché le mur ce jour-là? J'ai ressenti un mur. Cela ressemblait à de la pierre. Cela ressemblait à des rochers. Je n'ai ressenti aucune magie, ni rien de mystique. Je n'ai pas ressenti la présence de Dieu ce jour-là à cet endroit. Cela ne signifie pas pour autant que le mur n'a pas d'importance. Beaucoup d'événements historiques s'y sont déroulés. Mais je peux témoigner qu'il n'y avait pas de magie dans ces pierres. Il n'y avait rien de mystique à propos de ce mur. Je n'ai pas ressenti la présence de Dieu lorsque j'ai tendu la main pour le toucher. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, comme il est dit dans Actes 17. Le lieu d'habitation de Dieu et maintenant dans son peuple. Dieu habite en vous, par le Saint-Esprit. Autrement dit, il n'existe plus de temple physique, construit en pierre. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu demeure en vous. Jésus-Christ est la pierre angulaire. 1 Pierre 2, versets 4 à 5, dit la même chose. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Pierre ne parle pas ici de pierre physique, il parle de Jésus et de son peuple. Jésus, la pierre vivante, a été rejeté par les hommes, mais il est l'élu de Dieu. Il est la pierre angulaire. Et nous, son peuple, sommes aussi comme des pierres vivantes. Vous et moi sommes en train d'être édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, comme il est dit ici. Et par Jésus-Christ, nous offrons des sacrifices spirituels, non pas des sacrifices physiques comme dans l'ancien temple, mais des sacrifices spirituels à mesure que nous nous rapprochons de Dieu. Il y a donc parfois une question sur la nécessité ou non de reconstruire le temple une troisième fois. Il a été détruit deux fois, alors faut-il reconstruire le temple de Jérusalem à nouveau? Et la réponse est qu'aucune construction n'est nécessaire, car le temple a déjà été reconstruit. Ces versets disent que l'Église, le peuple de Dieu, est le temple. L'ancien temple était la demeure de Dieu, et les gens allaient au temple pour rencontrer Dieu là-bas. Mais maintenant, vous êtes le temple. Vous êtes la demeure de Dieu par son Saint-Esprit. Vous êtes une pierre vivante de ce temple. Cela signifie que vous n'êtes pas comme une pierre physique qui reste à un endroit et que les gens croisent de temps en temps. Non, vous êtes une pierre vivante du nouveau temple de Dieu. Vous êtes vivant en Christ. Vous vous déplacez. Ce qui veut dire que les gens rencontrent la présence de Dieu à travers vous. Les gens rencontrent la présence de Dieu pendant que vous êtes au travail. Les gens rencontrent la présence de Dieu pendant que vous êtes à l'école. Les gens rencontrent la présence de Dieu pendant que vous faites des courses à Jabka. Vous n'êtes pas une pierre physique, vous n'êtes pas une pierre morte, vous êtes une pierre vivante. Les gens n'ont pas besoin de voyager à Jérusalem pour essayer de rencontrer Dieu. Les gens peuvent faire l'expérience de Dieu à travers vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est la pierre angulaire du temple, et vous êtes une pierre vivante. Quand j'ai touché le mur, en Israël, ce jour-là, je n'ai rien ressenti. Mais je ressens quelque chose chaque fois que je peux tenir ta main lorsque je prie avec toi. Je peux sentir que tu es vivant en Christ. Mais souviens-toi, Paul n'écrit pas à un individu, il écrit à une église. Dans le Nouveau Testament, les croyants font partie de l'Église locale. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un groupe de pierres vivantes dispersées. Il s'agit de pierres qui sont rassemblées, qui s'édifient mutuellement en Christ et qui partagent cette espérance avec un monde perdu. Priez les uns pour les autres, portez les fardeaux les uns des autres. Un auteur dit « Ne sois pas un chrétien ninja, quelqu'un qui se glisse dans le culte sans que personne ne le remarque et qui repart rapidement sans que personne ne s'en aperçoive, comme un ninja. Ne sois pas un chrétien ninja, sois une pierre vivante, sois un concitoyen, sois plutôt un membre de la famille. » Cette semaine, je parlais avec un membre de l'Église qui a vécu quelque chose qui n'était pas bon. Elle a été amenée à se sentir comme une étrangère, et ce n'était pas agréable. Quelle joie ce fut de lui dire que quoi qu'il arrive dans le monde, elle a sa place ici, qu'elle a une maison ici, qu'elle a une famille ici. Et je suis ici pour vous dire la même chose. Peu importe d'où vous venez, peu importe la langue que vous parlez, peu importe ce qui est écrit sur votre passeport, à cause de ce que Jésus a fait, vous appartenez ici. Vous avez une maison ici. Vous avez une famille ici. Par Jésus, nous avons été rapprochés de Dieu. Il est lui-même notre paix, verticalement avec Dieu, et horizontalement, les uns avec les autres. Il n'y a pas d'étrangers ici, il n'y a que des frères et sœurs que vous n'avez pas encore rencontrés. Amen. Dans un instant, en l'honneur de la journée de la femme, certaines de nos dames vont partager. Mais avant cela, je vais leur demander de venir devant et de me rejoindre afin d'être disponible pour prier avec vous. Fin du sermon.